Voilà.
Hein? Tu dois parler, non?
Oui. Je veux remercier de tous vos applaudissements. Hein? Ça me fait droit ton cœur.
Eh, hein. C'est quoi le texte?
Comment on dit déjà?
J'ai oublié.
Où est-ce que vous voulez en venir?
Laisse tomber.
Graffiti cinéma.
Graffiti cinéma.
Quand on habite en ville, on a parfois le cafard, on n'a pas l'air viril et on fait peine à voir. Vivre en ville, c'est pourtant pas toujours triste, mais les villes au cinéma nous ont semblé des espaces à réenchanter dans cette série de deux émissions que l'on consacre au rapport entre la ville et le cinéma dans Graffiti Cinéma. Derrière cette formule, un poil ampoulé, un cri, une douleur, un regard, mais là je crois que j'en fais un petit peu trop. Alors on va tout simplement se demander si la ville doit encore apprendre du cinéma, à quel point et ce que lui donne le cinéma en échange. On va en parler dans notre deuxième mission consacrée au rapport entre les cultures urbaines et le cinéma avec nos invités. Alors la semaine dernière, on était avec lui, c'est le créateur et le président du festival Les Invisibles à Orléans, Amir Kadari, qu'on est très heureux d'avoir pour cette deuxième émission.
Hello.
Un grand merci d'être avec nous et notre deuxième invité pour cette émission, on est très très heureux de l'avoir au téléphone. Il vous êtes Kamel Saleh, qu'on est très content d'avoir au téléphone. Bonjour.
Bonjour, Romaric, merci à l'équipe.
Merci pour cette très très grand honneur. Alors c'est une flagornerie, ça peut me l'apparaître, mais vous êtes, je vais le faire une présentation, hein, Kamel Saleh, vous êtes cinéaste, acteur, réalisateur d'un film qui est devenu culte pour beaucoup de générations sur les rapports justement qu'on va analyser entre la ville et le cinéma, de Commun Aimant en 2000, notamment on voyait le groupe IAM qui interprétait donc ces personnages au sein de Marseille, Plan B en 2010, 10 ans plus tard. Vous êtes également réalisateur de clips iconiques et cultes, donc d'IAM évidemment, et vous continuez à filmer votre ville de cœur, Marseille, et vous êtes avec nous aujourd'hui, on est très content. On va parler évidemment de ces projets, de ces différents projets que vous avez, notamment une masterclass dont on évoquera dans notre émission. Nous enregistrons cette émission le 4 septembre à la Taverne à Orléans, dont vous avez pu entendre des extraits toute notre semaine sur notre page Facebook. Bienvenue dans Graffiti Cinéma. Tout de suite, je vous propose d'écouter un son justement de notre invité en direct de Marseille, Kamel Saleh, un extrait de son film qui s'appelle Lettre d'amour à une ville. Un très joli titre pour notre thématique.
Mon bien-aimé a le teint clair et rose. On le distinguerait au milieu de 10 000. Sa tête est comme de l'or pur. Ses boucles sont flottantes, comme un rameau de palme et d'un noir de corbeau. Ses yeux sont des colombes. Sur le bord des cours d'eau, il baigne dans du lait. Et sont comme enchâssés dans un chaton de bègue.
Alors, lettre d'amour à une ville, Kamel, on en parlait quand on est rentré en contact, quand on a tout de suite évoqué cette actualité orléanaise. Je vous ai dit, nous, on a un festival à Orléans. Et on a très envie de parler avec vous des rapports entre ville et cinéma, parce qu'avec votre filmographie, vous êtes quasiment l'invité rêvé pour une émission comme la nôtre, notamment sur ces rapports que vous avez évoqués entre, évidemment, Comme un aimant, qui est un film très important de votre filmographie, où dès le titre, on voit qu'on a des personnes qui restent dans une ville avec lesquelles ils entraînent un rapport d'amour-haine, finalement. Et c'est très important d'évoquer ce lien entre une ville et le cinéma dès ce film-là.
Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que sur Commun Aimant et un peu sur tous les autres projets, la ville est un personnage principal du récit. D'ailleurs, je crois que c'est le personnage principal à chaque fois, parce que c'est un peu un défaut de fabrication, enfin un défaut ou une qualité, j'en sais rien. C'est pas fait exprès, mais c'est propre à cette ville qui est Marseille, qui a une particularité. Je ne pense pas l'avoir fait exprès, mais je crois que c'est par la force des choses que la ville nous a, dans l'écriture, on est imprégné des décors et de cette géographie particulière. Et c'est vrai que je me rends compte qu'il y a, les personnages aussi ont un rapport particulier à la ville. D'ailleurs, je vais très vite faire une anecdote. Quand le film est sorti comme un aimant, il y a une journaliste de France Culture qui est venue faire un sujet, je crois que c'était une série documentaire, qui est autour de la culture urbaine. Et pour moi, à cette époque-là, c'était assez nouveau d'entendre de parler de culture urbaine. Et j'avoue, j'ai été un peu déstabilisé. J'ai pas mal pris, mais il y a eu un échange un peu particulier avec les journalistes où on avait du mal à se comprendre. Elle me disait, vous faites de la culture urbaine. Et moi, je dis, non, enfin, je fais pas de culture urbaine. Et puis, il s'avère qu'elle a raison quelques années après. Je me dis, mais elle a pas tort. Et pour vous dire à quel point je me rendais pas compte, qu'on était dans quelque chose de très urbain, et c'est propre à la ville, mais nous, on avait l'impression seulement de faire du cinéma et de raconter une histoire, mais en fait, on est très, très urbain, et c'est un peu la ville qui veut ça.
Alors, le titre de ce film, évidemment, il vient d'une réplique hein, qui est citée dans le film. Vous êtes collé au béton comme un aimant hein, de mémoire, et c'est vrai que là, pour
collé au banc,
c'est collé au banc comme un aimant, pardon. Ouais, je rate ma rime, c'est une catastrophe en plus en face du réalisateur. Et c'est vrai que ce rapport qu'on évoque, finalement, il est à Marseille, évidemment, il prend corps, évidemment, mais il est finalement transmissible à énormément de cités avec lesquelles on enregistre ce rapport, parfois un petit peu abstrait, et que le cinéma a très bien perçu dans votre filmographie.
Ouais, c'est ça. Je me suis posé aussi la question ces dernières années en me disant que c'est étrange le rapport qu'il y a à chaque fois avec cette ville-là. C'est peut-être qu'inconsciemment on veut... Ouais, c'est pas chauvin de se dire ouais, je veux filmer ma ville. Non, c'est parce qu'il y a ce rapport assez étrange avec la ville. Moi, à l'époque, voilà, il n'y avait pas les réseaux sociaux et on devait trouver des activités, on devait trouver des jeux. Très jeune, on a arpenté comme ça le territoire pour découvrir la ville, parce qu'on n'avait pas le choix. C'était une manière pour nous, soit à pied ou en vélo, de trouver des activités. Donc, on dès qu'on voyait un mur, hop, on grimpait, on regardait ce qu'il y avait derrière, hop, une propriété, on passait, on traversait comme ça. Hein, c'était pour trouver des raccourcis. Ah, mais sérieusement, quand j'y repense, on était des garçons, ce qu'on faisait. Il y avait des usines à Marseille, il y a énormément d'usines désaffectés parce que voilà, c'est des usines qui ont fermé avec la crise des années 80, des usines de savonnerie, d'huilerie, de chewing-gum et autres. Et donc, c'est resté comme ça longtemps désaffecté. Donc, nous, on entrait, on découvrait un univers. Ça nous permettait de trouver des raccourcis, aller d'un point à un autre. On se retrouvait dans des quartiers sans savoir où on était. C'est-à-dire, on ne se disait pas, tiens, on va prendre la carte, on va utiliser cette rue-là. Non, on montait, on grimpait, on traversait. Et c'est un peu...
Partir à l'aventure, quoi.
Voilà, on partait à l'aventure et il y a quelque chose d'assez particulier. On faisait un avec le territoire. Et ça se retrouve dans les films. C'est peut-être comme ça que j'ai grandi, que j'ai évolué dans cette ville-là. Et il y a quelque chose d'assez particulier avec la ville et qui un personnage à part entière à chaque fois.
Et Kamel, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le cas avec le regard critique que tu as de notre jeune génération? Est-ce qu'ils franchissent des murs et vont vivre l'aventure à vélo ailleurs? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui avec ton regard critique que tu as aujourd'hui en tant que réalisateur, acteur et ton parcours en tant qu'humain? Est-ce qu'encore aujourd'hui c'est le cas pour notre jeune génération? Est-ce qu'ils vont faire ce que tu faisais?
Non, c'est pas le truc. Je réalise que non, parce que quand je vais à Marseille, chacun est touché par son quartier, son propre quartier. Il y a une identification particulière au quartier, bien sûr, tout le monde est fier d'appartenir au territoire, vous le disiez au début, il y a quelque chose avec le territoire. Ça se retrouve un peu partout, à Paris, à New York, un peu partout, Brooklyn, ou Spike Lee qui dit Bedford Stuyvesant, ou Bensonhurst. C'est tous les quartiers dans lesquels Bensonhurst, c'est la communauté italo-américaine, Bedstu, c'est la communauté afro-américaine. Donc, chacun est fier de revendiquer son quartier. Marseille, également, on le retrouve à Paris, comme on dit ici, c'est Paris, ou alors, pour des quartiers. Ouais. Ça doit être pareil à Orléans, j'imagine. Mais
c'est le cas.
Ce rapport à la ville, de façon plus générale, qu'on a vécu, nous, étant jeunes, je le retrouve moins parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a les téléphones, il y a quelque chose qui est différent. Et nous, je dis, on n'avait pas de jeu, on n'avait rien, il n'y avait pas de centres sociaux, il n'y avait rien du tout. Et on a dû arpenter la ville et faire un avec la ville, avec l'asphalte, le goudron, la chaleur. Et
c'est clair, je pense, Kamel, juste pour ce sujet-là, pour l'ancien que je suis de l'éducation populaire, c'est pour avoir suivi cette belle histoire. Je crois que ça arrive aussi au moment de la décentralisation qui a fait des dégâts. Cette décentralisation, Elle a été bonne, mais elle a été négative dans le sens où moi, j'ai grandi comme toi dans des quartiers où on avait la supérette, la piscine, la boulangerie, il y avait tout. Ce qui fait qu'en gros, on crée cette fameuse fausse idée de la ségrégation positive. Ce qui n'a pas aidé la jeunesse à pouvoir sortir et aller en ville comme toi et moi on a fait avec nos vélos, on allait voler des cerises dans le jardin de la mamie, oui. Ou alors on allait, je suis désolé, mais on a vécu la même chose. Quand tu parles des vélos et de ces murs qu'on allait, c'est les années 80. Je sais pas quel âge t'as, Kamel, mais c'est les années 80,
ça,
voilà, tu vois.
C'est les années 80.
Et aujourd'hui, tu as raison, mais je crois pas on en parle souvent avec nous, les invisibles, et un jour, j'espère qu'on t'invitera à venir à Orléans, mais les invisibles, c'est la génération Z, c'est les digital natives, mais au-delà même des digital natives, c'est bien avant que ce travail a été fait de décentraliser, d'empêcher le rêve d'aller se passer ailleurs dans un bord de mer. Pour te citer un exemple, moi j'ai beaucoup de famille à Marseille et je passe le bonjour au quartier du Merlan que tu connais très très bien. En gros, mais tu m'entends? Tu nous entends?
Je t'entends,
ouais, les neveux qui sont là-bas, je posais la question à l'un de mes neveux, je disais, allez, viens, on va faire un petit tour au bord de la mer. Et en l'occurrence, mon neveu me répond, ça fait un an que je n'ai pas été me baigner. Ils sont au quartier du Merlan, hein. Kamel, tu connais ça, hein. C'est quand même, j'ai été choqué. Et donc, moi, pour moi, simplement, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'en gros, il est dans le quartier, et même pas, il va se baigner juste à côté. C'est pas, on est lassé de Marseille et de ce beau... cette belle côte bleue, c'est réellement, ils sont dans le quartier, ils ne sortent plus.
Mais c'est ça, il y a une volonté politique d'avoir sciemment, mais vraiment sciemment, coupé la ville en deux. C'est une réelle volonté politique. Flambé parle de ça, essentiellement de ça. On parle de gentrification.
Oui.
C'est tout à fait ça, c'est ce qui a été fait à New York et dans d'autres villes. Pour Marseille, c'est assez violent parce que, quand je dis coupé en deux, allez, tout le parcours euro-méditerranéen, était censé créer des emplois et autres. En fait, c'était un véritable leurre pour appauvrir, paupériser trois parties du troisième arrondissement dans lequel j'ai vécu, qui est devenu aujourd'hui l'un des plus pauvres arrondissements, le plus pauvre d'Europe, hein, je dis bien. Et c'est plus des quartiers, c'est-à-dire que c'est des arrondissements, c'est plusieurs quartiers, une grosse partie de la ville qui a été mise de côté, et tout le sud de la ville. Qu'on a favorisé parce qu'il y a des populations qui ont plus d'argent, mais il n'était pas nécessaire d'appauvrir ces quartiers-là.
Oui.
C'était des quartiers pauvres d'origine, mais qui avaient quand même, qui s'étaient maintenus jusqu'alors. Et là, sciemment, ils se sont dit, hop, on va les sacrifier. Du coup, on va dégager toutes les populations. Et le projet initial, c'était d'enrichir le centre-ville, donc dégager les gens du centre-ville. Et appauvrir le 3e, le 15e et tous les autres quartiers. Et ça n'a pas fonctionné. Du coup, les gens sont restés. Et ça donne un visage tarifié, des balafres de par ça. La ville, elle est... Ah ouais, mais c'est horrible dans quel état le centre-ville et la ville se trouvent. Ça n'a ni queue ni tête. C'est plus le Marseille qu'on a connu. Ça a perdu de son charme. Et c'est un échec total. D'ailleurs, l'effondrement du bâtiment de la rue d'Aubagne, c'est pas les quartiers nord, c'est le centre-ville qui devait être enrichi.
Alors là, quand on parle, il n'y a pas que Nord en salle, évidemment, qui vient de sortir, qui était au Festival de Cannes. Kamel, on peut le dire, Marseille, c'est une ville qui est très riche au cinéma, hein, finalement, qui a été très souvent choisie comme lieu, évidemment, et puis a commencé dans ta filmographie. Thomas, tu as vu Plan B,
oui.
de Kamel, évidemment, en 2010 également, qui est quasiment une prolongation très directe de Comme un aimant.
Moi, je l'ai vu comme une prolongation de Comme un aimant, avec en plus ce dont tu parlais, l'aspect gentrification. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le quartier qui est filmé là, il est rétréci. Il n'existe presque plus. Il y a 3 ou 4 rues et il y a des chantiers partout. Et tout le monde est presque mis à la porte. Et même il y a des scènes plutôt vibrantes où on ne filme même plus les personnes qui sont mises à la rue finalement.
En fait, c'est une logique libérale. En fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'objectif principal, c'est de créer des commerces et de favoriser le tourisme. au détriment de la population. Donc, le meilleur moyen, c'est de casser tout ce qui a été cassé, la force de cette ville et la beauté, le charme de cette ville, de casser les quartiers et d'en faire rue de la République, qui est devenue des commerces. Pourquoi pas? Mais moi, ça me va qu'il y ait des commerces et que ce soit beau. Mais c'est toujours au détriment de la population. Donc forcément, pour une ville comme Marseille, ça n'a pas fonctionné. Et du coup, ça donne quelque chose d'assez bacard entre... Voilà, c'est très... D'ailleurs, beaucoup de gens qui étaient installés sont repartis parce qu'ils se sont dit que ça ne fonctionne pas. Les commerces ont resté fermés, les logements ont été achetés parce que quand tu avais un logement sur la rue de la République, quand il est rénové, ben, le logement, le loyer coûte 4-5 euros. Enfin, voilà.
Il n'y a plus aucun moyen de mettre cet argent-là pour des gens qui vivaient là auparavant.
Tout à fait. Et qui doivent se couper. Mais en fait, on a fait venir des populations aisées qui devaient côtoyer les populations parce qu'ils n'ont pas pu réussir leur projet. Du coup, ça crée un truc assez bizarre, quoi. Oui. Moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait des populations. Au contraire, je trouve ça beau. Mais quand c'est au détriment de la population, ça se voit et ça donne quelque chose de pas réussi. Et je pense qu'il y avait un projet... il y avait quelque chose de... Je pense qu'il fallait miser sur la culture, l'aspect culturel de la ville et enrichir la ville à ce niveau-là. Ça n'a pas été fait. Je pense que c'est une ville qui a des ressorts culturels intéressants qui ne sont pas exploités. Et là, on a misé sur le l'argent, le commerce, voilà, c'est ça l'idée, vendre des apparts, faire un tramway, qui, voilà, le tramway, c'est le circuit, c'est intéressant, hein, tu dis. Mais il fait le trajet de la ligne 1 et 2 du métro. Donc,
c'est vrai que là, récemment, en plus, Marseille est revenu dans l'actualité, avec là, on enregistre le 3 septembre, Emmanuel Macron est encore à Marseille, il me semble. Ces choses-là, on l'a entendu en se disant que c'est quand même fou de faire un tram qui fait le même trajet qu'une ligne de métro, juste au-dessus, juste en dessous. Donc c'est quand même fou.
Mais en fait, c'est quand tu mets un tramway dans une ville, ça a été fait à Bordeaux, dans toutes les villes, ça fait grimper les loyers parce que, du coup, c'est l'atout charme que tu mets dans le. Ouais, voilà. Donc, j'ai le tramway en dessous. On peut justifier des loyers hauts. Et moi, j'aime bien l'idée, mais il faut faire les choses de manière plus correcte. Voilà. Et là, on est un peu la risée de tous à chaque fois.
C'est Amir. Je voulais te dire juste. En fait, tu j'ai l'impression de m'entendre parler quand tu parles. En fait, tu m'entends. En fait, en gros, dans ce que tu dis, j'ajouterai des virgules et des parenthèses. Tu sais. Il y a le fond et la forme, faisant quelque chose, vraiment faisant quelque chose, parce qu'il y a le fond et la forme. Il y a cette forme du tramway et de l'ANRU avec ces millions d'euros pour réinvestir les façades des immeubles. Mais le vrai grand problème, c'est le fond. Le fond, c'est toutes les personnes qui habitent dans ces bâtiments. Et en fait, tu parles de Marseille, mais on pourrait parler de Grigny dans le 91, on pourrait parler d'Orléans, on pourrait parler de toutes les villes où on a choisi un modèle aseptisé avec des rues qui n'ont plus du tout de personnalité.
Oui, c'est vrai que on parlait de politique urbaine à Marseille, et puis évidemment il y a une logique de fond, hein, de la gentrification, et cette logique de remodeler des villes marseillaises finalement, comme à l'image de Marseille finalement, qui est vraiment essentielle sur cette logique entre cinéma et urbanité. C'est que Marseille, on s'aperçoit que c'est un vrai terreau pour ça.
Pour le cinéma ?
Pour le cinéma, et puis qui évoque les logiques urbaines et comment une logique urbaine vient directement dans le fond et dans la forme modeler la culture d'une ville finalement.
La politique de la ville, comme on l'entend, a été mise en place il y a un peu plus de 30 ans par les hommes politiques après les premières émeutes de Vaux-en-Velin. On est en 80, je crois, à peu près. Pour moi, c'est un échec. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'argent qui a été mis en place pour justement enrichir ces quartiers d'un point de vue culturel, à tout point de vue, il y avait des axes de prévention de toxicomanie, petite enfance, culture, ça allait beaucoup plus loin que ça, et ça fait plus de 30 ans, près de bientôt 40, que cet argent, il a été dilapidé sans savoir vraiment, il n'a jamais été utilisé à sa juste valeur. Là, d'ailleurs, on est en pleine actualité. Macron qui va à Marseille, qui dit oui, on va injecter 300 millions pour les écoles. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que et des effets d'annonce, à la différence que la politique de la ville, c'était des enveloppes super importantes qui étaient gérées par le développement social urbain, avec ce qu'on appelle les ZEP et tout ça, des dispositifs super bien calibrés, avec dans chaque quartier des chefs de projet. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qui ont été donnés à des associations. Et il y a eu du favoritisme, je ne suis pas là pour dénoncer ou pour donner des noms, il y a eu du favoritisme, mais on va dire 80% une infime partie de l'argent a été utilisé à bon escient, et le reste pour enrichir quelques-uns. Donc ça fait que, on en parle d'un convénement, on le dit, je suis allé demander déposer un projet au DSU, à moi on m'a donné zéro, à un photographe qui est arrivé de je ne sais pas où, on lui a donné 30 boules. Ouais, c'est normal et c'est une réalité, ça. Moi, c'est un photographe qui était venu me voir, qui m'avait dit, on avait déposé un projet cinéma avant communément. Comme ça faisait des années qu'on déposait des projets, on n'avait jamais rien obtenu. Il me dit, moi, c'est marrant, je ne suis pas de la ville, je ne connais personne ici et j'ai obtenu 30 boules. Et chaque année, il était renouvelé, lui et d'autres, peu importe. Et tant mieux pour eux. Mais il me dit, mais moi, cet argent-là, je ne peux pas l'utiliser à des fins sociales. Il a acheté du gros matos, un peu comme les photographes de mode, là, les gros apparts, les chambres, et tout ça. Il me dit, ouais, moi je peux faire 3 photos et partir, mais c'est dommage. Et lui, eux-mêmes, ceux qui arrivaient, étaient étonnés de trouver facilement de l'argent, cet argent-là, parce qu'en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si ça va mieux, il n'est plus nécessaire de donner de l'argent, parce que ça y est, c'est réglé. Donc, tant que la situation empire, ben on continue d'injecter de l'argent. Bon, c'est un peu ça. Voilà.
La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né les poches vides? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Pourquoi j'ai vu mon père en cycle partir travailler juste avant le sien en 3 pièces grises et BMW? La monnaie est une belle femme qui n'épouse pas les pauvres. Sinon pourquoi suis-je là tout seul, marié sans dot? Pourquoi pour lui c'est crèche et vacances? Pour moi c'est stade de foot, sans cash, sans filet, sans même une ligne blanche. Pourquoi pour lui c'est l'équitation? Pour moi les bastons, pour lui la coque, pour moi les flics en faction. Je dois me débrouiller pour manger certains soirs. Pourquoi lui se gave de saumon sur de caviar, certains naissent dans les choux, d'autres dans la merde. Pourquoi ça pue autour de moi? Quoi? Pourquoi tu me cherches? Pourquoi chez lui c'était Noël ensoleillé? Pourquoi chez moi le rêve est évincé par une réalité glacée? Et lui a droit à des études poussées. Pourquoi j'ai pas assez d'argent pour acheter leurs livres et leurs cahiers? Pourquoi j'ai dû stopper les cours? Pourquoi lui n'avait pas de frère à nourrir? Pourquoi j'ai dealé chaque jour? Pourquoi comme moi je plonge, je lui passe sa thèse? Pourquoi les caches d'acier, les caches dorées agissent à leur aise? Son astre brillait plus que le mien sous la grande toile. Pourquoi ne suis-je pas né sous la même étoile? La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
Je peux rien faire, je peux rien faire. Spectateur du désespoir, je peux rien faire.
Comme Issa, pourquoi je suis pas né la bonne étoile, veillant sur moi, couloir plein de doigts, de cracha, cha-cha, de franc, compète des tapettes devant, supporter de grandir sans un franc, c'est trop décevant, simplement en culotte courte. Pas faire l'appel mécanique plate avec des pots de yaourt, c'est pas grave, je n'en veux à personne et si mon heure sonne, je m'en irai comme je suis venu. Adolescent incandescent, chiant à tour de bras sur le fruit défendu, innocent, témoin de type abattu dans la rue, c'est une enfance de la pourriture, ouais. Je ne drague pas mais virer des tartes aux petites avec les couettes. Pâle de peur devant mon père, ma soeur, porter le voile, je revois à l'école les gosses qui la croient ce poil, c'est rien Léa. Si on était moins scrupuleux, un peu de jeu du feu, on serait comme eux. Mais j'ai pleuré pour avoir un job comme un crevard sans boire, les je t'aime à mes parents seuls dans mon lit le soir. Chacun son boulet, sans ambition, la vie c'est trop long. Écrire des poèmes, puis c'est violent dans un violon. Tu te fixes sur le wagon, c'est la locomotive que tu manques. C'est pas la couleur, c'est le compte en banque. J'exprime mon avis, même si tout le monde s'en fiche. Je serais pas comme ça si j'avais vu la vie riche. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
Mon Dieu, pourquoi ne puis-je vivre comme n'importe quel être humain? Pourquoi mon destin est-il de ne pouvoir cesser de battre?
Je peux rien faire.
Et c'est vrai que ces thématiques-là, on s'aperçoit que c'est, alors c'est paradoxal et c'est peut-être pas forcément, je dirais, positif, mais c'est un terreau fantastique pour le cinéma parce que une des thématiques et une des questions qu'on voulait te poser, c'est est-ce que finalement, quand on parle de Marseille et des autres villes, est-ce qu'on est amoureux de la ville ou peut-être plus des citadins qui finalement prennent sur eux et essayent de vivre malgré tout, malgré ces conditions-là? Parce que quand on regarde toute la filmographie, même Lettre d'amour à une ville, hein, qu'on va conseiller à nos auditeurs, qu'on a posté sur notre page et que vous pouvez regarder, qui est vraiment un court-métrage, on va en parler évidemment, moi que j'ai trouvé vraiment très, très poignant et très important en fait, parce que on est dans un espace urbain et vous avez des personnes qui essayent de directement réenchanter, alors pour le coup on reprend le terme qu'on a eu tout à l'heure, avec de la poésie qui est aussi un mot valise, mais qui essayent en tout cas de se réapproprier leur territoire. Et on sait qu'en géographie également et chez beaucoup de théoriciens, et ça passe également par le cinéma, la notion de territoire c'est quelque chose de très personnel et de très intime finalement. Et ça passe par le cinéma.
C'est marrant, j'essaie de vous poser la question, le cinéma peut-il améliorer nos vies? Sur le fond, de manière plus générale, oui, mais comme ça, de façon bien précise sur le bien-être d'une population ou d'un quartier, je ne crois pas. On peut faire des documentaires pour faire des témoignages, mais il n'y a jamais assez de recul pour comprendre, tu vois, ce qu'on a évoqué au tout début et ce que disait... on peut faire avec du recul ce que nous, on a vécu quand on était plus jeune et la différence d'aujourd'hui. Mais on a tellement le nez collé dans nos vies, dans une réalité sociale, il est difficile de comprendre qu'un film va parler de cette réalité-là, ou même si on peut le comprendre à travers un film. Je ne sais pas si ça va régler un problème comme ça. Je pense qu'il faut des années pour le comprendre. Et puis ça va vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un problème. Demain, t'as terminé ton film, on est déjà passé à un autre problème. Tout va trop vite, tout va beaucoup trop vite. Et le territoire, c'est intéressant parce que les territoires aujourd'hui sont bouleversés par les politiques menées aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, vous pouvez effectivement t'identifier à ces territoires et te dire, voilà, je suis de tel endroit. Mais la vitesse à laquelle les transformations se font, c'est ce que disais, je crois tout à l'heure, le Merlan, ça ressemble plus au Merlan, la ville ne ressemble plus à la ville, les gens ont du mal à quitter leur lieu parce qu'il n'y a plus de repères. Effectivement, tout est brouillé. Et d'ailleurs, je crois que l'urbanisation, je crois qu'il y a des socio-urbanistes qui ont compris ça, qui ont compris qu'il fallait casser, brouiller les pistes. D'ailleurs, dans Plan B, on dit à un moment donné, au tout début, le personnage joué par Brahim, qui vit dans le commun, et moi-même, mon personnage, Samy, je lui dis, je ne reconnais plus rien dans la ville, tout a changé. Mm-hmm. Tu te rappelles le cordonnier dans le canal d'aller? J'ai dit, c'est devenu un fast-food. Et la boulangerie,
il est
allé manger nos gâteaux. Pareil, une boutique de tourisme.
On rappelle que Commandement, ça date de 2000, hein, donc il y a encore quelque chose de très présent. Hein, c'est quand même un film qui a 20 ans et le temps passe très vite finalement là.
Ouais, très vite. Et il termine en Plan B là. Il lui dit.
Plan B, oui.
Il lui dit pareil. Il dit la dernière fois, je voulais aller à tel endroit. Il dit je me suis perdu. Je retrouve un peu mon chemin. Je me suis perdu dans mon propre quartier. Il dit rencontre perdu dans mon propre quartier. Et lui, il dit ouais, moi pareil. Donc toi, quelque part, on a le sentiment que le territoire nous est la seule chose à laquelle on pouvait s'identifier, nous est retiré et c'est brouillé. Effectivement, il y a des endroits, moi quand je retourne à Marseille, je vais dans des endroits, je ne les reconnais plus. Je me retrouve étranger dans mon cadre.
C'est très intéressant ces thématiques-là. En tout cas, on est très content d'en parler avec un cinéaste et puis évidemment tout autour de la part André Ping. Rebecca, tu avais une question pour Kamel Saleh.
Vous ne connaissiez pas forcément les espaces dans lesquels vous alliez sur Marseille. Et moi, j'avais cette image. C'est l'uniformisation partout qu'on a dans toutes les villes, partout. Tout se ressemble. Il n'y a plus d'identité. Et c'est pour ça que cette thématique de se reconnaître dans sa ville, dans son quartier, est super importante. Parce qu'on est des êtres humains et on s'attache à des lieux. Et du coup, le fait d'être uniformisé, enfin d'avoir vraiment des lieux qui se ressemblent partout, on a pu, en fait, c'est comme si on voulait nous couper des attaches qu'on avait enfin de notre espace, comme si on était des pions.
L'espace, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que quand le capital a décidé de s'attaquer à tout ce qui restait d'encore exploitable pour l'être humain, ben l'espace, c'est-à-dire que on n'a plus d'espace. On va utiliser le moindre espace pour en faire quelque chose de commercial et voir s'il y a moyen de détruire, de reconstruire. Pour d'ailleurs, c'est ce qui se fait dans le quartier de la Défense, on pourrait faire une comparaison. En permanence, comme il n'y a plus rien à construire, ils détruisent des tours et reconstruisent des tours neuves. C'est-à-dire qu'il faut en permanence construire. Il n'y a plus d'espace, donc il faut. Et aujourd'hui, avec le Covid, on voit à quel point on est tous pieds. Et personnellement, chacun de nous, et de manière individuelle, bon, je ne vais pas rentrer dans une polémique pour ou contre, mais on voit notre précaré, le moindre espace, notre moindre espace de liberté nous est retiré. Le capital a décidé d'exploiter tout ce qu'il pouvait exploiter encore sur cette planète, et le territoire, les territoires qu'on aimait, tant dans lesquels on aimait se retrouver, nous sont retirés, ne nous appartiennent plus. Donc voilà, le peu de liberté qu'on avait, les cafés sont fermés. Il faut trouver. Il n'y a plus l'identité à laquelle on pouvait se raccrocher. Ça se voit étrangement dans une ville comme Marseille qui a une forte identité. Ça se voit dans des villes comme Orléans, Bordeaux, dans le monde entier. Ça a été fait il y a quelques années avec la gentrification, mais là, on parle même plus de gentrification. On parle de je crois que le capital veut utiliser, quand je dis le capital, c'est tout ce qui est l'ultralibéralisme, va utiliser tous les espaces possibles pour exploiter économiquement ça, et rien ne nous, c'est une preuve que rien ne nous appartient, quoi. Rien nous appartient, effectivement, l'espace ne nous appartient plus.
Le temps passe très très vite, hein. On est très content d'échanger avec vous, Kamel, sur cette filmographie. Alors là, pour le coup, si c'est passionnant, on pourrait passer des heures sur Marseille, évidemment, qu'on est très content d'évoquer au cinéma, parce que c'est un territoire qu'on est je pense beaucoup de cinéphiles ont été très contents de voir au cinéma. Alors, quels que soient les aspects et les orientations choisies, on rappelle qu'au moment où on enregistre, on est le samedi 4 septembre, vous avez Bac Nord qui est en programmation au Festival de Cannes, qui est actuellement en salle. Et puis là, bon, bah, pour le coup, évidemment, on est en présence d'un spécialiste et de quelqu'un qui a vivement filmé cette ville, qui est devenu vraiment un terreau pour les liens entre cinéma et ville. Et Thomas, tu avais une dernière question pour notre invité, parce que c'est vrai que on pourrait passer des heures là-dessus. On est déjà, en tout cas, très content d'avoir passé ces minutes-là, qui sont des minutes très précieuses pour nous pour évoquer c'est cette culture-là, en tout cas.
J'ai deux petites questions. Purement sur la distribution des films. C'est-à-dire que...
La distribution, hein.
Ouais, la distribution des films, là. Par exemple, Communément, c'est assez compliqué de le voir. Il est sur deux, trois plateformes de VOD. Sinon, il reste le DVD paru début des années 2000, mais il n'y a pas d'édition,
Blu-ray, par
exemple. Blu-ray, haute définition. Pourtant, il y aurait la moyen de faire un événement autour de ça, de créer un anniversaire, de dire quand même, ça fait 20 ans... qu'est-ce qu'il en est? Et même plan B, ça, c'est compliqué de trouver vos films. Qu'est-ce que
alors,
vous en pensez?
Alors, personnellement, c'est Studio Canal et Canal Plus qui a les droits du film.
Ouais.
Et je crois que Bac Film, qui avait. Pas Bac, non. Hein, Bac Film. Ouais. Donc, c'est vrai que. Mais qui te dit. Voilà, c'est un film qui fonctionne au bouche à oreille et tout. Ils n'ont pas grand intérêt à communiquer plus que ça avec ce film-là. En fait, c'est la logique de la distribution, c'est-à-dire qu'on communique beaucoup sur des films qui ont coûté extrêmement cher.
D'accord.
Ouais. C'est comme ça qu'un film sort. Quand un film comme Bac Nord sort, il a coûté 14-15 millions d'euros.
Ah oui.
On va mettre beaucoup d'argent sur la la distribution, on va communiquer énormément, il y a une grosse enveloppe et on va mettre à peu près 900 copies. C'est-à-dire il y a très peu de salles qui n'ont pas le film. Donc c'est ça. Et quand un film comme Commandement qui a coûté très peu, qui n'a pas coûté grand chose, même si le film a un potentiel énorme, il n'y a pas d'intérêt économique pour eux de mettre beaucoup d'argent. C'est pas logique pour eux. La logique, c'est que pour la distribution, oui, c'est qu'on met de l'argent, beaucoup d'argent, sur un film qui a coûté cher. Voilà, basta, c'est comme ça que ça se passe. Plan B, c'est un film qui a été produit et réalisé de façon totalement indépendante, oui, que j'ai produit et réalisé. Donc du coup, moi, je n'ai pas de distributeur. Je venais moi-même distribuer, voilà, j'ai travaillé comme ça. Et c'est extrêmement difficile. Donc voilà, c'est un film que je voulais faire parce que ça me tenait à cœur. Il appartient au commun des mortels, il appartient à tout le monde. Voilà, mmh. Donc voilà, c'est un peu la difficulté des films. Voilà, c'est le fonctionnement du cinéma français, ouais, c'est super bien fait, hein, c'est intéressant. Il y a le CNC qui est là pour maintenir un peu la cadence. Mais après, tous les films, voilà, si tu veux une grosse distribution, il faut que ton film soit énormément cher. Que ce soit un film de qualité ou pas, ça n'a rien à voir avec la qualité du film. Avec voilà, une logique de distribution par rapport aux exploitants.
Moi, ça me, honnêtement, ça m'attriste un peu, ça, d'entendre ça, de se dire que c'est un film qui marque, quoi. Ce sont des films qui marquent et qui mériteraient justement qu'il y ait cette exposition. Et je suis sûr que ça, quelque part, il y aurait une possibilité, parce que le cinéma, c'est un art et c'est aussi mercantile, il y aurait une possibilité de faire de faire des rentrées sur un événement comme celle-là.
C'est la logique dont tu parles qui est la logique économique. Alors, on est toujours dans une logique économique, c'est-à-dire que c'est l'argent d'abord. L'objectif principal est de faire beaucoup de la thune. Les exploitants sont là pour faire la thune, les distributeurs, les producteurs et autres. En ça, il y en a qui peuvent mettre la caisse pas fort parce que c'est un métier très difficile. Et la qualité du film passe bien après. Et c'est pas une connerie que je dis. Il y en a qui disent ah non, mais je promets que c'est la vérité. Il y a des films qui sont des chefs-d'œuvre qui ne ressortent pas parce qu'économiquement, ça ne va rien rapporter. Et ça vaut aussi pour la production. C'est-à-dire que moi, longtemps, naïf, j'ai cru avec d'autres que si j'avais un bon scénario, je pouvais espérer. Trouver un producteur et des financements, c'est pas vrai. C'est pas la qualité d'un scénario qui va faire que je vais trouver un producteur, non. C'est si le film a un potentiel, on va dire, blockbuster et autres, voilà, c'est ça. C'est le ils appellent ça, comment on dit, bankable.
Bankable, ouais. Ouais, tout à fait.
Ouais, voilà. Mais les films que je fais ne sont peut-être pas bankable, mais s'ils durent dans le temps, c'est intéressant. Et nous, on a, ensemble, j'ai l'impression qu'on s'est compris, on a une exigence qualitative sur la force d'un film qui va nous toucher 20, 30 ans, 40 ans après. Comme pour une chanson, les distributeurs aiment les films, mais je crois qu'ils aiment plus d'argent, et c'est logique. Ils se disent, je me mets à aimer les films, à faire du sentimentalisme, Je vais
mettre la clé sous la porte.
Je mets la clé sous la porte, je suis en boutique. Donc, ils ont une logique beaucoup plus un peu guerrière. Pas guerrière, c'est pas guerrière, mais un peu plus incisive. Enfin, voilà, c'est pas le même rapport au film qu'ils ont. Voilà.
Alors, en tout cas, on était très contents de ramener un peu de lumière sur ces films-là et on va continuer à le faire. Là, on était avec Amir Kadari qui dirige et a créé le Festival des Invisibles sur Orléans. Donc, du coup, nous, c'est d'autant plus intéressant d'évoquer des films comme ça qui méritent et qui doivent absolument être vus. On rappelle, Kamel, que là, l'émission, elle est diffusée, nous, sur nos plateformes le 14 septembre, mais qu'il y a une masterclass que vous mettez en place justement pour découvrir le métier de scénariste et de réalisateur. On peut l'évoquer justement pour le mot de fin, c'est très important pour le côté pédagogique du cinéma qui est également essentiel dans votre démarche.
Ouais, c'est ça, c'est une masterclass, ça fait longtemps que j'y pense, et c'est une masterclass, c'est totalement gratuit. Le 25 septembre à 13h30, je peux donner rapidement le lien pour
que bien sûr.
C'est www.la25heure.net, 25e avec un E tout simplement, pas E-M-E mais E. C'est un site où voilà, ceux qui le souhaitent s'inscrivent. On va organiser une masterclass pendant 2-3 heures et après derrière ça, c'est qui le souhaite, il y aura la possibilité de donner des cours sur l'écriture du scénario, la réalisation, ça c'est bien après. Mais c'est un premier contact avec le public pour discuter cinéma et c'est un espace qui est ouvert, voilà.
En tout cas, nous, l'invitation est lancée pour des prochaines émissions. Puis pourquoi pas avoir le plaisir de vous voir et de commenter vos films sur Orléans ou ailleurs, parce qu'on a vraiment envie de mettre des gens et beaucoup plus de personnes devant, encore en plus, encore en tout cas pour les découvrir ou les redécouvrir. Un immense merci hein, vraiment pour nous avoir accordé ces longs entretiens aujourd'hui.
Merci à vous, merci vraiment.
Et puis vraiment au plaisir, parce que voilà, c'est très enrichissant et c'est tout ce qu'on souhaite aux cinéphiles et aux spectateurs du monde entier, c'est de pouvoir dialoguer avec des cinéastes, avec des gens qui transmettent leur passion comme vous le faites.
Merci infiniment, merci à vos chroniqueurs et voilà, je suis ravi d'y avoir passé.
Kamel,
merci
est-ce beaucoup. Que tu me reçois 5 sur 5 ?
Oui, je t'entends.
Je viens bientôt à Marseille, je prendrai ton numéro, je t'appelle et on essaye de se voir. Et au-delà de ça, ça nous permettra de discuter de l'édition 2022 où sans doute on fera quelque chose ensemble à Orléans.
Merci infiniment, merci à tous. J'étais ravi de participer à cette émission et ça a été un réel plaisir pour moi.
Alors, du coup, bah, Amir, on va finir, hein, on va tendre le micro. Alors, on peut le dire parce que ça fait un peu coulisse, hein, Amir. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant notre entretien. On a dû reformuler. Alors, vous ne l'avez pas entendu parce que là, au moment où je parle, on a fait évidemment un point de montage. Donc, vous avez entendu Amir répondre aux questions. Mais ceci dit, Amir, on a eu un petit souci parce qu'Amir n'a pas réussi. Ça a été assez bizarre. Mais bon, c'est aussi le nerf de l'enregistrement et le nerf de la guerre. On a fait tant bien que mal pour que Amir et Kamel puissent échanger sur cette table ronde finalement du cinéma et de la ville, et ce qui est très important de percevoir le rôle du cinéma, je dirais socialement mais également pédagogiquement, et on a eu un regard de cinéaste qui est évidemment en tête de gondole pour cela, parce qu'on rappelle donc que Kamel Saleh, pour finir cette émission, c'est le réalisateur de Commandement avec le groupe IAM en 2000, c'est le réalisateur de Plan B en 2010, et que c'est un des grands cinéastes en France en tout cas qui a filmé l'urbanité. En tout cas, Amir, parce que là, on peut le dire, vous écoutez cette émission-là le 17. On rappelle qu'on l'a enregistré le 4 septembre à la Taverne à Orléans. On remercie tous ceux qui nous ont accueillis aujourd'hui. Et Amir, évidemment, on va également faire un très, très grand merci à Amir qui est resté deux heures avec nous pour deux émissions dont on est très content.
Avec plaisir, tu le sais.
Nous de même. Plaisir partagé. Hein, Rebecca, Thomas, je pense que...
Un grand plaisir. Voilà.
De la question de Rebecca et la passion...
Oui, mais
on retiendra ça.
C'est féminin en même temps.
La passion. Ouais.
La passion, c'est féminin. Ça, c'est tout un autre débat. En tout cas, oui, Amir, voilà, on rappelait que bon, dans notre première émission, le 10, vous avez entendu, on a parlé du Festival des Invisibles. Là, quand vous l'entendez, on est le 17. Et Amir, au moment où vous entendrez le son, il sera déjà peut-être en train de préparer les prochaines éditions. En tout cas, ce qui est très important pour nous, puisqu'on est encore au début de notre saison, c'était vraiment de mettre ça en avant, également en tête de gondole. Le cinéma, c'est un rôle social. C'est fait pour relier les gens. Et également, il a un rôle également dans la représentation de notre réalité, de notre vie. Alors c'est un peu pompeux comme ça quand je le dis, mais on s'aperçoit vraiment et on perçoit avec le regard qu'on avait ici et les échanges qu'on avait avec Kamel Saleh à quel point cet art est fondamental et beaucoup plus finalement qu'une forme artistique très abstraite.
C'est un engagement. Kamel Saleh s'engage et on le voit par rapport à ses films. Donc il y a un engagement, il y a le cinéma et le cinéma. Je reprends ce que disait Rebecca, c'est vrai qu'il y a une histoire de passion finalement, mais on enlève le mot passion et on met engagement à la place, qui dépasse vraiment tout. Et Kamel Saleh a ce côté-là d'engagement, sans comme un aimant. Et cette rencontre qu'il a dû faire avec Akhenaton et ces gars qui sont des super gars, je pense que le message serait passé autrement, parce que Kamel, je pense aussi, t'as un être engagé comme nous ici autour de cette table. Nous sommes des personnes qui sommes totalement engagées. On parle d'une France unie, mais d'une France qui vit la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe à Marseille, au plus petit des quartiers d'Orléans, se passe aussi l'idée de cette urbanisation nouvelle. Cette urbanisation nouvelle, elle a une importance dans le transport des richesses. On pourra en débattre. Le transport des richesses, c'est des routes aseptisées avec de moins en moins de bancs et de parcs verts où à l'époque, les papiers mamies et les jeunes jouaient. Aujourd'hui, on a affaire à un quartier de la source avec une ligne droite, des lignes droites partout. Et c'est plus trop les quartiers, comme lui le disait, où on allait franchir des murs et on se retrouve. Mais alors, c'est une sorte de mondialisation. C'est une sorte de modèle économique qui va pour certains et va pas pour d'autres. Mais nous, les êtres humains, on peut changer et on est aujourd'hui à l'aube d'un changement, qu'on le veuille ou non, suffit juste de s'engager, d'aller dans la rue, de prendre son micro, de prendre sa bombe, et puis de... Oui, voilà, les graffeurs avec leur bombe. Alors attendez, c'est pas un appel à la bombe, mais de prendre sa bombe et d'aller graffer sur les murs. Cinéma, ouais, graffiti cinéma, voilà, bing. Mais voilà, c'est ouvert. On y est à condition. Alors, il y a une personne que j'ai croisée en vacances qui m'a dit une chose vraie, c'est que tant qu'on ne connaîtra pas la pauvreté, c'est-à-dire que nos frigos seront remplis, on ira de moins en moins s'engager sur des projets humains, solidaires et tout ce qu'on veut, parce qu'il y a cette histoire de je suis bien à la maison, j'ai pas besoin, c'est bon. Tant qu'on ne connaîtra pas la pauvreté, mais on va pas attendre la pauvreté. Donc moi, c'est un cri d'alerte que je prononce. Les Invisibles, c'est un engagement citoyen. Dans un très beau pays où on a encore la chance aujourd'hui d'avoir un cinéma pâté, une radio et plein de gens qui ont envie de s'investir. Et pour la suite, d'autres rendez-vous seront donc greffés sur 2022 avec des masterclass, des rencontres avec Audrey Strogo qui sera toujours à nos côtés parce que c'est une fille formidable, et d'autres encore. Je vous donne ce rendez-vous-là, vous avez l'adresse, c'est le www.lesinvisibles.fr. Et au-delà même de cela, de nous rencontrer, nous les Invisibles, moi je m'appelle Amir Kadari, je suis simplement que votre serviteur, je suis là vraiment en tant que bénévole aussi, puisque c'est une association loi 1901, elle ne fait aucun bénéfice. Et s'il y a bénéfice, sont reversés pour l'association qui a des idées de mettre en place plein de petits projets, toujours en direction des Invisibles, donc le rural et l'urbain.
Bah, c'est dit, et voilà, pour cette émission-là également, on a un très très beau mot de fin. Merci beaucoup Thomas pour la réal, la participation à l'émission, évidemment.
Merci. C'est super.
C'est notre première émission en extérieur cette saison, ouais. Graffiti, alors on fera des directs chez nos diffuseurs, mais on sera également très itinérant et on sera très heureux en tout cas de venir à la rencontre des intervenants du spectacle, du cinéma et des intervenants du cinéma. Merci beaucoup Rebecca.
Et encore merci à la taverne devant le pâté Place de Loire qui nous a permis de réaliser cette première émission Graffiti Cinéma saison 2021.
Depuis que je suis tout petit, tu vois, j'aime regarder les étoiles. Et elles me font rêver. Pas comme toi, tu vois.
Mais si je comprends bien, je suis une étoile pour toi.
Mais en plus, en ce moment, on la voit plus trop, ta mère.
Ah, si elle est comme ça, c'est parce qu'elle est seule, c'est tout.
Maintenant rentre parce que c'est plus une nuit pour les enfants. Rentre, tu vois ce qui s'est passé.
Vous venez d'écouter la bande-annonce de Comme un aimant, un des grands films de la filmographie de Kamel Saleh en 2000. On a évoqué comment Plan B en 2010 et très récemment, donc on a partagé sur notre page Facebook et que vous retrouvez sur YouTube, Lettre d'amour à une ville. On était évidemment ravis d'avoir eu cette longue entretien en compagnie de Kamel Saleh pour parler de cinéma. On a parlé de Marseille et d'urbanisation et c'est tout l'intérêt de parler de ces grands thèmes de société par le 7e art. Tout de suite, vous retrouvez directement la baby critique, la première de notre saison, les critiques par des enfants et le chef de notre secteur baby critique, Gabin, en compagnie de son père, qui a été un très bon collaborateur pour cette critique. En une minute, vous faites directement l'analyse de Jungle Cruise. Juste après, vous retrouvez le jury des Invisibles, qui on était en très très bonne compagnie. On était avec Daniela Zuni, journaliste, Charlotte Gabri, une actrice, une comédienne, qu'on a vu très récemment dans beaucoup de productions, et la présidente du jury, Audrey Estrogo, qui était venue à Orléans présenter Suprême, le film qui retrace 30 ans de la banlieue, de l'abandon de la banlieue, et évidemment, principalement également, l'histoire du groupe NTM. Dans son film, elle venait le présenter à Orléans directement après le Festival de Cannes. On les retrouve pendant un entretien d'un peu plus de 10 minutes que j'ai eu avec L3, où on parlait justement de cinéphilie, de cette façon de voir le cinéma également à destination des plus jeunes, puisqu'elles étaient jury des 3 minutes chrono, ce festival de 3 minutes qu'on retrouve sur Orléans dans le cadre du festival Les Invisibles. Un grand merci à Vincent Régnier qui nous a donné un coup de main pour régler des petits problèmes de son qu'on avait eu à l'enregistrement du son avec Kamel Saleh qui était à distance comme vous l'avez entendu. On l'avait enregistré dans les conditions du direct directement de Marseille.
Bonjour Gabin, alors on sort de Jungle Cruise, est-ce que tu as apprécié ?
Oui.
Alors, est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle ?
Ça parle d'aventuriers qui vont dans une jungle essayer de retrouver des pétales magiques qui peuvent redonner la vie ou enlever toutes les blessures.
D'accord, très bien. Et ça t'a fait penser à quel type de film ?
Je m'en dis, Indiana Jones... Et plein d'autres films.
D'accord, c'est avec Dwayne Johnson, je vais y arriver, que tu connais, qui a joué dans quoi déjà ?
Fast and Furious.
Ouais, d'accord.
Et plusieurs d'autres films que je connais.
D'accord, ok, t'as aimé alors ce film ?
Oui.
Tu le conseilles ?
Bah, mon petit frère de 4 ans, qui vient d'avoir 4 ans, l'a vu, juste un peu long, voilà.
D'accord, oui. Un petit peu long. Ok, très bien, merci Gabin, à bientôt.
À bientôt.
Allez, vous aussi, vous avez fait des folies quand vous étiez jeune.
C'est bien ce petit cri d'enfant derrière, c'est ce que vous recherchez.
C'est fantastique, c'est des amis qui sont venus exprès pour faire des sons d'illustration.
C'est bien plus aide.
Voilà, c'est magnifique.
Alors nous sommes en présence du jury du festival Les Invisibles, donc bonjour à vous trois, donc Audrey Estrougo qui est présidente du jury.
Bonjour.
Charlotte Gabry.
Bonjour.
Et Nadia, pardon, Lazouni.
On a un micro pour trois, donc ouais. Moi je le passe. Oui. Mais est-ce qu'on dit en même temps bonjour?
Bonjour.
Bonjour en même temps, bonjour. C'est magnifique aussi. Bonjour. Alors, on est à quelques minutes de la délibération, enfin de la délibération, c'est fait, mais de la remise des prix du jury, du meilleur scénario et que vous avez délibéré. Comment vous ressortez de cette sélection de 18 films des 3 minutes chrono, donc qui étaient en compétition hier au moment où on enregistre ?
Épuisé.
Non, alors on peut dire, on a toujours cette petite appréhension, surtout qu'on n'est pas hyper copines ni rien, on se connaît pas dans la vraie vie, donc. On se dit, bon, on sort chacune avec son avis, mais il y a toujours ce petit moment où on se dit, et j'espère qu'elle n'a pas aimé ce que j'ai pas aimé, et inversement, on est un peu comme ça, et on s'est rendu compte très vite qu'on était ultra d'accord. Donc nous, au contraire, ce moment de délibération, ça a été un moyen de se rapprocher et de faire encore plus connaissance. Donc super moment, en fait.
Sur quels critères, finalement, vous disiez un film doit marquer ? Est-ce que c'est forcément un impact émotionnel, scénaristique ? Comment vous les lisiez, vous, justement, ces films-là, par rapport à vos parcours différents et respectifs ?
C'est, en fait, la réponse est dans la question.
Oui.
Comme nous sommes déjà des personnes différentes, la magie du cinéma, c'est qu'un film ne sera jamais perçu de la même manière. Donc, il y a autant de manières de vivre un film qu'il y a deux jours sur cette planète. Et ça, c'est quand même merveilleux. Et ensuite, on n'a pas du tout le même parcours professionnel, donc on n'est évidemment pas du tout regardante sur les mêmes choses. Moi, je suis très, très... En fait, que le film fasse 3 minutes ou 3 heures, finalement, je regarde toujours la même chose, l'histoire qu'on me raconte, comment on me la raconte, et est-ce que c'est bien ça qu'on veut me raconter ? Voilà. Indépendamment du fait si ça me touche ou pas, qui est une autre question.
C'est vrai qu'on vient d'univers différents, et quoique encore pas, c'est pas ça l'important, mais je sais même plus quelle était la question.
Est-ce que vous êtes mis d'accord en fait sur des critères ? Est-ce qu'on est forcément
dans
l'analytique ?
Oui, on s'est mis d'accord, mais en fait, il y a quelque chose de le plus important en tout cas pour nous, c'est la sincérité et aussi la qualité et la volonté de faire quelque chose de bien, avec de structurer aussi. Ce qui est impressionnant, c'est de voir les personnes qui respectent une structure, même sur 3 minutes, et que c'est pas parce qu'on a un minutage court qu'il faut absolument faire quelque chose, soit d'expérimental ou de dire j'isole juste une scène de quelque chose. Et donc oui, c'est regardante sur l'histoire, le scénario et le jeu, l'esthétisme, c'est un ensemble de plein de choses différentes, mais... Exactement, c'est les mêmes critères qu'un long métrage, sauf que c'est très court, un peu trop court à mon goût, mais ça c'est la prochaine question, je voudrais surtout pas la spoiler.
Spoiler. Oui, je crois pouvoir dire qu'il y a un autre critère, même si on l'a peut-être pas dit de manière très explicite, mais un court métrage qui a du sens, qui cherche à un court métrage un peu engagé, qui va parler d'une question de société de manière assez explicite ou non en fait, mais en tout cas moi c'est ce qui m'a personnellement beaucoup touchée parmi la sélection donc, du coup des 3 films qu'on a fait, c'est-à-dire le prix du jury, le meilleur scénario, il y a une petite mention spéciale, et ce qu'ils ont en commun effectivement, c'est qu'ils adressent aussi un message fort à la société.
Très bien, alors du coup j'y viens à ma deuxième question, parce que c'est vrai qu'on parle de message, et la deuxième question qui me vient, c'est le Z des Invisibles, donc ce festival-là, qui est évidemment un clin d'œil aux générations Z. Alors les XY, celles des quadras qui commencent à être un peu vieux cons comme la mienne, et qui ont connu la vie sans Internet. Et pour les Z, c'est ceux qui sont nés dans Internet et pour lesquels on fait souvent cette généralité, à savoir qu'un film, ça va être un peu trop long pour capter leur concentration, et qu'un format de 3 minutes, a priori, serait plus adéquat pour arriver à les attirer vers le 7e art.
Là où c'est très 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 difficile, hein, c'est de pouvoir raconter une histoire effectivement en 3 minutes, puisqu'en 3 minutes généralement c'est qu'on pitch un projet ou que c'est un peu la durée d'un teaser. Donc rien que pour ça, c'est assez remarquable hein, de leur part d'avoir tenté de pouvoir exprimer une idée, de la scénariser, de la mettre en scène en 3 minutes. Cette génération Z, je pense qu'on l'a aussi un petit peu trop caricaturé. Je pense que si un scénario, un film peut durer 1h30 à partir du moment où il est hyper rythmé, il y a un beau casting, un beau jeu, c'est une génération qui pourrait être sensible à ça, je pense.
C'est surtout que Pardon, mais moi, ça me rend dingue. C'est exactement ce que tu dis, de faire trop de généralités sur une génération. Chaque personne est différente et de dire, bah, cette génération, elle n'arrive pas à se concentrer plus de tant de minutes. Elle n'arrive pas à faire ça. Mais le pire, c'est qu'on adhère à ça. Et c'est ça qui me rend dingue. Alors, je ne parle pas de ces courts-métrages parce que je trouve que les contraintes sont hyper intéressantes et que ce soit une contrainte de temps, de ton, de thème. Ça, je trouve ça génial. Mais en revanche, moi, pour moi, c'est affligeant et ça me fait extrêmement peur de voir que sur les Netflix, etc., maintenant on peut voir un film en accéléré parce que des scènes nous saoulent, donc on peut
jusqu'à
accélérer le tempo.
Vite, ouais.
Tu peux faire x2, x4, x8.
Jusqu'à 2, oui, mais c'est vrai.
C'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus le temps d'installer quelque chose et je pense que les responsables, ce ne sont pas cette génération Z, ce sont les personnes qui. Ça les arrange bien aussi de dire oh, bah, ils n'ont pas le temps, ils ne sont pas assez, bon, bah, je vais le faire court. J'ai pas fini, Audrey. Et c'est pas possible. Elle dit qu'on s'entend bien, on s'entend bien. Mais c'est la première à arracher le micro de
tension,
ses partenaires du jury. Et ça, moi, je peux plus. Ce n'est plus possible. Allez, Audrey Strugo.
Non, mais c'est surtout que cette génération, ils sont quand même des millions à se ruer au cinéma pour aller voir des Marvel qui durent trois plombes et qui sont pas spécialement des super bons films en plus. Donc. Donc,
on peut l'évoquer, mais c'est vrai que oui, c'est un bon contre-argument.
Les films, ils vont les voir. Peut-être que le problème par rapport à cette génération qu'on stigmatise, alors que finalement, elle est bien plus engagée sur des thématiques de société que les générations du dessus, puisqu'ils ont une planète qui littéralement brûle, hein, au propre comme au figuré, c'est vraiment compliqué pour eux d'être sur cette terre-là maintenant et de s'envisager dans le futur. Donc, ils sont concernés, ils s'engagent pour beaucoup. Il faut arrêter de dire qu'ils votent tous Front National parce que c'est faux. Et surtout, peut-être que si on daignait faire aussi des films qui leur parlent et qui leur tendent la main, ils iraient. Je pense qu'il y a un problème entre ce qu'on propose et là où ils se reconnaissent et là où ils ne se reconnaissent pas. Voilà.
J'avais une dernière question probablement, mais c'est vrai que c'est tout à fait juste.
Non, mais en fait, voilà, je pense que Audrey a mis le doigt en fait sur la question
et
Charlotte aussi, donc elles ont mis même leurs mains dessus sur le sujet, sur la problématique, c'est la question de la reconnaissance.
Exactement. Ouais.
Si on a une génération qui peut enfin se reconnaître dans des personnages, dans un scénario qui est réel, parce qu'on a vu, en tout cas en avant-première, des films qui nous semblaient complètement hors sol, et c'est un sentiment que nous on a alors qu'on a plus de 30 ans. J'imagine même pas. Oui, on peut le dire. On a un peu plus de 30 ans. Si, Charlotte.
Je veux donner une classe d'âge.
Assume ou je balance ton âge à tout le monde.
C'est suffisamment vague.
Mais voilà. Non, c'est ça. Cette question de la reconnaissance, de la représentation, du coup.
Alors, le grand mantra, en fait, du festival, c'est rendre visibles les invisibles. Et on en parlait avec Amir Kadari, rendre visibles les invisibles, finalement, moi, en y réfléchissant en tant que cinéphile, et puis vous en tant que cinéaste, en tant qu'acteur et journaliste, finalement, on peut se dire que ça a toujours été le grand défi du cinéma dans un sens. Comment aujourd'hui, cette forme de mantra, pour reprendre le terme, peut prendre encore plus de sens, justement, quand on parlait de jeunes formats engagés, notamment, et dans la sélection que vous avez pu voir?
C'est marrant, c'est une discussion qu'on a eue hier et même encore aujourd'hui, c'est cette question de la représentation, la représentativité. Enfin, je veux dire, on va parler des minorités, clairement, et peut-être des populations des quartiers populaires, qu'on voit dans des films de manière caricaturale. Donc, est-ce que c'est ça une juste représentation? Non, pas du tout. Donc là, il va falloir clairement qu'on prenne nos caméras, qu'on prenne nos stylos et qu'on écrive nous-mêmes nos scénarios et qu'on filme nous-mêmes depuis notre réalité à nous. Et voilà, jusque-là, on a été perçus à travers le prisme de personnes qui n'ont côtoyé ces quartiers populaires qu'à travers des reportages diffusés sur BFM. Enfin, et malheureusement, en 2020... Non, mais il y a quand même une petite évolution parce qu'on voit de plus en plus émerger de festivals comme ça, organisés par des associations de terrain. Il y a une évolution, mais on a bien senti quand même hier qu'on n'échappait pas complètement aux stéréotypes qu'on essaie de dénoncer, que, en tout cas, ce festival Les Invisibles essaie de dénoncer.
Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai, mais il n'y a pas grand-chose à rajouter parce qu'elle parle très bien, elle s'exprime très bien. Après,
c'est juste.
Festival, c'est pas.
J'ai pas osé relever, même si on est à une distance de sécurité relativement importante.
Donc moi, je vais parler, je prendrai une question après.
Ok. par exemple, je peux poser la question à Audrey Strougo, que vous avez présenté Suprême donc en avant-première au festival, et cette question de la représentation, on le voyait également puisque vous confrontiez des images d'archives justement sur la réalité de l'abandon des banlieues et la représentation médiatique également de ce combat-là. Comment vous retrouvez le fait, puisque on entendait quand Nadia parlait de caméra de stylo, la caméra stylo, c'est une grande théorie post-68 art du cinéma, et c'est vrai que ça fait sens aujourd'hui 50 ans après finalement. Comment expliquer que cette volonté de remettre des gens derrière les caméras également pour qu'ils se racontent, elle est de plus en plus prégnante à notre époque, très numérisée, je dirais, finalement un peu beaucoup plus virtuelle en tout cas que précédemment.
Moi, c'est ce que j'ai voulu montrer. C'est ce que j'ai voulu montrer dans ce film.
Bataille du micro.
Voilà, ça faisait très longtemps que je voulais l'écrire.
Fake news.
Tiens.
La question, oui, c'était par rapport à la caméra stylo, l'engagement également en tant que représentation médiatique. Oui.
En fait, je pense qu'il y a deux facteurs. Il y a effectivement maintenant, aujourd'hui, avec tous les supports numériques, Internet, les réseaux sociaux, tout ça, on a accès à énormément de choses et on a la possibilité de montrer énormément de choses aussi. Avec un téléphone, on peut déjà montrer énormément. Du coup, les moyens étant de plus en plus démocratisés, en fait, ça permet, à mon avis, d'accélérer un peu le processus d'aller au bout du bout de cette façon de faire et de penser qui voudrait que, en tout cas pour les arts, parce que je le prends quand même de manière... La littérature, finalement, c'est la même chose. La musique, ça a été... épargné parce que c'est une autre histoire et que c'est un autre vecteur, mais le théâtre, le cinéma sont beaucoup concernés aussi par le fait que c'était une élite intellectuelle, bourgeoise pour quand même dans la plupart des cas, qui avait accès à ces moyens d'expression. Et donc, le monde était retranscrit à travers ce prisme-là uniquement. Aujourd'hui, l'autre partie, l'autre versant de la montagne peut aussi s'exprimer, peut aussi se faire entendre. Et donc, forcément, on a une opposition de deux conceptions, en fait, et à la fois du monde et à la fois de ce que doivent être ces arts. Mmh. Est-ce que l'art doit appartenir et être pris en otage ? La culture est quand même énormément concernée par ça. Donc, par une seule fange de la population qui est un entre-soi comme ça merveilleux, où ils s'autocongratulent entre eux et ne parlent que de eux. Et surtout, si vous n'êtes pas un peu l'élu, c'est-à-dire si on ne dit pas il faut voir ce film, il faut écouter cette musique et il faut aller voir cette pièce, vous n'existez même pas. Alors est-ce qu'on continue encore sur ce schéma-là ou est-ce qu'on accepte la diversité qui s'offre à nous et la possibilité du coup de revoir des histoires qu'on a déjà vues mais écrites, réalisées, jouées par ceux qui en sont plus proches et donc de voir une réalité sous un autre jour. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on est pile à ce carrefour-là.
Très bien. Ben, en tout cas, c'est foisonnant intellectuellement. C'est vraiment très intéressant. Puis c'était tout aussi enrichissant d'en parler avec vous juste avant la remise des prix. Effectivement. De quoi ?
Plus avec moi. Vous avez plus de... C'était plus intéressant.
Je suis tout à fait corruptible. Hein. ça sera après ce son-là. En tout cas, très très grand merci d'avoir répondu à nos questions juste avant la remise des prix des Invisibles.
Merci
beaucoup. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. On enregistre une belle série également d'émissions sur le blockbuster Dune, le blockbuster cérébral. On va complètement changer d'école, mais c'est toujours aussi un impact entre le cinéma, un lien entre le spectateur et le film. Rendez-vous la semaine prochaine. On était très heureux de faire cette série de deux émissions sur les cultures urbaines et le cinéma. À la semaine prochaine. Salut à tous.
Salut.
Et bon film.
Pourquoi vous avez fait ces graffitis ?
Non, pourquoi vous faites ça ?
Mm-hmm.